nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Paul-André, bonjour.
Oui, bonjour.
Récemment, l'Académie des Beaux-Arts a élu au titre d'associé étranger l'architecte Norman Foster en novembre 2007. Est-ce que c'est courant d'élire un associé étranger architecte à l'Académie des Beaux-Arts ? C'est le premier ?
Oh non, c'est pas le premier. Il y a eu avant Kenzo Tangay. Non, il y en a régulièrement. En fait, des correspondants étrangers, il y en a de toutes les sections possibles. Mmh. Donc, il y a eu des architectes régulièrement. Bon, vous en donnez la liste parce que je n'ai pas la mémoire de tout ça. Mais le prédécesseur de Karim Agakan était Kenzo Tangay. Et aujourd'hui, Sir Norman vient comme ça, non pas remplir un trou, mais puisqu'il ne succède pas à Tanguay, mais voilà, nous faire l'honneur d'être des nôtres.
Il y a eu l'unanimité sur ce choix ?
Oh, vous savez, oui, unanimité, on n'est pas une douteuse république bananière, donc on n'est jamais unanime. On l'est presque, ça revient au même. Et en tout cas, pour Norman Foster, on avait, je crois, pas grand doute que c'était à la fois un plaisir et un honneur qu'il vienne.
Qu'est-ce que vous avez voulu récompenser aussi dans cette distinction ?
Oh,
son
si vous voulez
quelque chose de particulier.
Non, nommer un correspondant, c'est pas le récompenser. Dieu sait que Norman Foster, il a toutes les récompenses possibles au monde dans le domaine de l'architecture, hein, du Pritzker au prix de l'empereur du Japon, au prix de je ne sais quoi. Il ne manque pas de récompenses et, à vrai dire, l'Académie n'en décerne pas de cet ordre. Non, ce que l'Académie lui demande finalement, c'est de bien vouloir être son correspondant. C'est un échange de gens qui se reconnaissent et qui, dans notre cas, ont de l'admiration pour quelqu'un et lui disent « Venez donc être des nôtres, voilà ».
Et quelle est la particularité de l'œuvre de Foster ? Il y a eu tellement de réalisations.
Oui, c'est un architecte qui a beaucoup cherché, beaucoup travaillé et qui a développé une activité toujours plus intense, mais dans une direction toujours la même, à vrai dire. Hein, c'est-à-dire, on dit que c'est un des pères du high-tech, je crois que c'est un peu limitant de parler de ce fameux high-tech. Sauf que ce qui a été important, c'est la vision qu'il avait finalement de l'architecture, cette espèce de vérité de la structure, d'économie dans certains moyens, mais en même temps d'expressivité. C'est une économie qui n'est pas de l'avarice dans les moyens, ou pas du tout. Au contraire, c'est une économie saine, c'est montrer ce que l'on fait, employer un minimum de moyens, mais des moyens formidables. Et on voit bien qu'il a eu des œuvres de recherche. Moi, je me rappelle avoir visité ces bâtiments de Ipswich, par exemple. Ce n'était pas le fait que c'était high-tech qui vous frappait d'abord, mais c'était sa vision de l'espace, cette espèce de manière de traverser un espace en diagonale, de changer un espace de bureau et de prendre un îlot de la ville d'une manière complètement différente. Ça, c'était formidable.
Quel est l'édifice que...
Maintenant, il y a des tas de bâtiments qui sont... Bien sûr, la banque de Hong Kong, la Hong Kong and Shanghai Bank, a été un grand choc quand il l'a construite. Je ne vais pas m'hasarder à les citer toutes, mais ensuite, il y a eu, et moi j'y suis particulièrement sensible, l'aéroport de Hong Kong a été une grande, grande réussite, à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan formel. Et puis là, tout récemment, son aéroport à Pékin.
Hein, l'aérogare. Vous connaissez bien les aérogares.
Oui, c'est une très, très belle construction, très dépouillée à beaucoup de points de vue, peut-être moins riche dans son détail que d'autres, mais peut-être encore plus riche au plan de l'espace et du volume. Et de la manière, il y a une espèce de dépouillement dans certaines parties de cet ouvrage qui en font vraiment quelque chose de très beau. Je l'ai utilisé.
Je l'ai utilisé,
puisqu'elle n'est pas ouverte depuis longtemps, mais
oui,
je l'ai utilisé.
Elle est en service depuis mars 2008.
Oui. L'œuvre de Foster, c'est un long développement continu. Et je crois qu'il a apporté beaucoup de choses à l'architecture. Et moi, je reste attaché autant à ses débuts qu'à l'expression la plus accomplie, quoi. Hein ? Parce que souvent, on se nourrit encore plus, nous, les autres, de ce qui est clos, comme ça, avec force, dans les débuts, quoi.
Et dans cet aérogare, il y a des éléments particuliers. On retrouve, j'imagine, la marque de Foster, mais est-ce qu'il n'y a pas une innovation, mais il y a du nouveau Foster ? C'est un accomplissement, ça vient de maturité.
Ça, si vous voulez, j'aurais dû... Non, je ne le conçois pas du tout sous cette forme. Il y a eu une réponse à un problème local, il y a le problème général d'une très grande aérogare. Il y a une manière de faire de la structure et des plafonds qui est encore plus dépouillée qu'avant. Pour des questions de moyens, pour des questions de décision, ça c'est lui qui le dirait. Mais
le bâtiment a été...
Moi, vous savez, je ne pense pas que les architectes démarquent du tout. Je pense que les architectes, ceux qui sont dignes du mot d'architecte, ils mènent des recherches toujours un peu dans les mêmes domaines. C'est vrai qu'ils approfondissent, mais en même temps, ils ont cette espèce de liberté de ne jamais se répéter. Et justement, ce qui nous différencie des artisans ou des gens de, comment dirais-je, du luxe et de la mode, c'est que justement, nous n'avons pas de marque.
Est-ce que cet édifice s'inscrit particulièrement dans l'environnement de... C'est une extension de l'aéroport de Pékin, là. Est-ce qu'il a voulu faire quelque chose de particulier ?
Non, c'est un bâtiment qui est, si vous voulez, c'est bien l'extension de l'aéroport de Pékin, mais c'est une extension qui ne touche pas au bâtiment existant. Dans l'aéroport de Pékin, il y avait une vieille aérogare, pas très très vieille, mais enfin quand même, datant de, je sais pas, la fin des années 70 ou quelque chose comme ça. Non, c'était plus vieux que ça. Mais ensuite, il y a eu une autre aérogare très grande, celle-là. Mais ces deux premières étaient rassemblées dans un même espace. Et là, il y a un nouvel espace de développement avec une liaison, mais assez lointaine avec ce qui avait déjà été fait. Donc, c'est une zone nouvelle. Et c'est un bâtiment dont la première vertu est d'être une construction qui est un paysage en même temps. Vous voyez, c'est des bâtiments tellement grands qu'ils posent le problème de la forme. Est-ce qu'on peut avoir une forme déterminée, finie, reconnaissable absolument dans un bâtiment qui devient presque démesuré ? Non, on commence à atteindre l'échelle du paysage. Et son bâtiment, avec ses formes arrondies, douce, très évolutive, elle a cette qualité, de mon point de vue, d'être une espèce de grande colline artificielle qui monte, descend, passe sous le sol, revient et qui est entourée d'avions, avec toutes les difficultés que ça comporte. Mais c'est justement ça, tout l'intérêt de ce projet, d'avoir affronté un certain nombre de difficultés nouvelles, pas tellement des difficultés techniques, il y en a beaucoup, mais des difficultés plutôt conceptuelles.
Desquelles ?
Mais celle, par exemple, quand je dis faire une colline, c'est pas simple. Comment une colline touche-t-elle par terre ? Comment est-ce qu'on sort de cette fameuse colline ? Ça, c'est pas simple. Ça a toujours été un problème pour tout le monde. C'est même pour Boulay, ces bâtiments émergents du sol de Boulay, il posait ce problème de comment on entre, comment on sort.
Et chez Foster, depuis le début, il y a ce rapport au sol avec ses premiers travaux sur le cockpit. Là, je pense
oui,
que ça,
oui, 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 il a cette espèce de projet. Je me le rappelle pas en détail, mais de maisons individuelles qui émergent du sol, de forme arrondie. Oui, bien sûr. Alors là, dans l'aéroport, ça ne peut pas émerger du sol de la même manière. Mais c'est tout le problème à ce moment-là à résoudre. C'est un des problèmes à résoudre, plus exactement.
Et la lumière guide les passagers dans l'aérogare, au niveau de la circulation ? Parce que j'en ai vu, je ne sais pas.
Oh, c'est une lumière. Il y a de la lumière zénitale qui est distribuée dans un peu tout le bâtiment. Je dirais percole à vos plafonds, donc ils sont assez clairs. C'est à la fois très efficace et très simple et agréable, mais sans vous imposer des choses extraordinaires. On n'a pas l'impression qu'il a voulu à toute force vous montrer toutes les ressources de son art.
On se laisse séduire, là. Est-ce que Norman Foster enseignait en France ? Est-ce que son œuvre dans les écoles d'architecture
Vous savez, l'enseignement n'est pas comme ça. On n'enseigne pas tel ou tel architecte ou telle chose. Dans les écoles, normalement, on discute des projets, des idées, des uns et des autres. Et voilà, les professeurs commentent. C'est un peu comme dans les classes de composition musicale. Les professeurs commentent. Dans les meilleurs des cas, dissèquent, expliquent ce qu'ils pensent être et ce qu'ils savent être les raisons d'un ouvrage. Et puis après, on en discute. Il n'y a pas un enseignement aussi dirigé que ça, quoi.
Enfin, toi, je voulais juste savoir s'il y avait beaucoup d'influence. Son œuvre avait une influence.
Il a de l'influence.
C'est un des plus grands architectes mondiaux.
Oui, mais si vous voulez,
vous
savez, qu'est-ce que fait un étudiant d'architecture ? Un étudiant d'architecture, il regarde autour de lui, il essaie de voir qu'est-ce qui se fait, de comprendre. Et c'est en même temps quelqu'un qui a besoin de se nourrir et quelqu'un qui a besoin, une fois qu'il s'est nourri, de prendre sa liberté. Bon, alors, il y a Norman Foster et il y en a 10, 20, 30 autres que les étudiants regardent, consomment. Et ils aiment celui-là ou un autre, tuent le père chaque fois qu'il faut le tuer. Et voilà, et tout est bien. Et Norman doit être tué par un certain nombre de gens, oui. Dans la mesure où il est un père, il est tué.
Il y a des projets, des voies, des courants d'architecture. Il y a une famille particulière à laquelle.
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais pas ça. Il y a eu cette grande voie commune à lui, à Rogers, à Piano, à un moment, de réputer être le high-tech. Et on voit bien qu'ensuite, chacun va dans sa direction. Chacun. Vous savez, un créateur, il est rarement brigadé. Aujourd'hui, il y a des tas d'autres tendances.
Mais il a expérimenté des formes complètement différentes. C'est très riche, l'œuvre de Foster.
Oui, mais enfin, il ne faudrait pas non plus, si vous voulez. Enfin, il serait lui-même tout à fait étonné si on pensait que l'architecture, comment dirais-je, tourne autour de lui ou se limite à lui. Il est l'un des grands acteurs de l'architecture contemporaine. Il l'a été, il l'est encore. Bon, mais il y en a d'autres, oui. Il y en a d'autres et encore une fois, il y a des gens qui se reconnaissent parce qu'ils considèrent qu'ils cherchent avec la même intensité. Et qu'il crée, et qu'il trouve que d'autres créent moins, avec moins de vérité. Mais à part ça, chacun après a des idées différentes, elles vont, elles viennent. Moi, je ne veux pas dire celui-là ou celui-là. Je déteste balancer des noms comme ça. Mais bon, il y a d'autres gens qui pensent à l'opposé de Foster et qui n'ont pas pour autant tort. Ce n'est pas la question. Ce n'est simplement pas la question. On peut avoir des idées différentes et tous avoir raison.
Bien. Bon, merci, Paul-André.
Je vous en prie.